la première difficulté est de se penser ensemble et de se penser comme un nous, quelque part, de faire un lien entre une lutte et une autre. Tel parent d'émeutier de 2005 pourra aussi bien vous tenir un discours rôti sans papier absolument ahurissant, ou anti-squatteur. Voilà. Donc, il y a véritablement un enjeu qui est un enjeu de type symbolique, de type culturel, politique, de construction de liens entre ces mini-communs qui s'établissent et s'affrontent à l'État. Très bon. Problème finalement politique relativement ancien, qu'ils arrêtent de s'affronter dans un ordre dispersé, quoi. Minimum. Ça peut marcher, hein. Je connais des cas, par exemple, dans une situation tout à fait symbolique de cet enjeu rentier de la ville aujourd'hui auquel sont confrontés les habitants, qui sont les opérations en rue. Les opérations en rue, c'est pas simplement pour détruire du vieux moche et construire du joli. D'abord parce que ceux qui étaient dans le vieux, ils ne peuvent pas forcément vivre dans le joli parce que le système de financement du logement social étant plus le même, ils n'ont pas de quoi se payer les loyers de ce qu'on est en train de construire. Mais l'enjeu des opérations en rue, c'est de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, c'est de faire rentrer une partie du foncier dans le marché. Hein. Très clairement, c'est ça. Le problème économique des cités construites dans les années 60, c'est que ce sont des zones urbaines qui n'ont pas connu de mutation de propriété depuis un demi-siècle. Vous ne vous rendez pas compte le manque à gagner. Donc on fait rentrer. Voilà. Ça peut provoquer des résistances. Ça peut provoquer des résistances populaires, cette situation. Je trouve déjà que. Quand on commence à dire qu'on va vous détruire votre quartier, on est en train de vous dire que vous viviez avant dans une poubelle, c'est jamais très agréable. Mais il y a eu des études qui ont été faites, par des collègues de Sciences Po, il y a une coïncidence géographique entre les zones où il y a eu plus de voitures brûlées et les zones où il y avait des projets en rue, hein, par exemple. Mais très précisément après, sur un quartier particulier, je pense au quartier Saint-Rémy à Saint-Denis, sur lequel il y a un projet en rue qui est retardé depuis 2 ans et dans lequel bon, c'est pas du logement social, c'est du 1% patronal, mais enfin c'est une population quand même c'est très très pauvre, hein. Et il y a des squatteurs. Eh bien le bailleur n'a pas réussi à opposer les bons locataires à ceux qu'on appelle de façon un peu féminisé, les occupants sans droit ni titre, dans le vocabulaire administratif, les OSDT. On n'a pas réussi à opposer les locataires et les OSDT parce que l'association de locataires sur place a provoqué des réunions avec les locataires et les OSDT qui payaient quand même une indemnité d'occupation. Et les locataires en question qui eux bénéficiaient de l'APL se sont aperçus que les vilains squatteurs payaient en réalité plus qu'eux. Donc la solidarité a pu se construire sur cette question-là. Donc non seulement ils ont obtenu un plus fort contingent de logement social dans les projets de reconstruction, j'espère que ça sera suivi d'effet, mais ils ont aussi obtenu quand même un engagement sur le relogement de tout le monde, et pas seulement les vrais habitants, comme si ceux qui n'ont pas de quoi ou qui n'ont pas eu le droit, parce qu'ils étaient noirs, d'accéder à un logement social, étaient des faux habitants. Voilà. Donc, il y a des possibilités comme ça, mais il faut un travail, pour l'instant, ça ne peut être qu'un travail à une petite échelle, puisqu'il n'y a pas l'espace linguistique, symbolique, politique existant, qui reste à construire. Thank you. Qu'est-ce qu'on peut faire en deuxième... Je m'arrêterai là. Hein. Deuxième possibilité, puisque la deuxième difficulté de ces solidarités multiples, parcellaires et explosées, c'est qu'elles n'ont pas d'autre rapport au pouvoir que celui de l'affrontement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stratégie, je vous le disais tout à l'heure. Il n'y a pas de... il n'y a pas d'appétence au pouvoir. Ils ont simplement envie qu'on les laisse tranquilles. Ils n'ont pas envie de prendre la mairie. Ils n'ont pas envie d'être députés. Et puis des fois, on se demande s'ils n'ont pas raison, parce que quand il y en a qui le font, ben, ils viennent comme les autres. Donc, l'institution génère des virus extrêmement virulents. Donc, ça désarçonne aussi la gauche. Ça ne veut pas dire qu'ils sont indifférents à qui est au pouvoir. Et donc là, ça nous donne une autre piste, éventuellement. Quand ils vont voter, quand les jeunes de Framoisin ou d'ailleurs, qui ne se sont pas déplacés hier, mais faisaient la queue au printemps dernier pour voter, ils vont pas voter pour eux, ils vont pas voter par délégation, ils ont pas dans la tête qu'ils vont avoir des représentants. Ils sont pas dans une culture délégataire, ils sont pas dans une vision délégataire de l'organisation du commun, de l'organisation collective. C'est pas ça qu'ils vivent. Par contre, ça ne leur est pas indifférent de savoir à qui ils vont avoir affaire quand il va falloir négocier. La question de qui va être l'interlocuteur n'est pas complètement indifférente. Parce que l'alternative à l'émeute, c'est quand même la négociation. C'est quand même la construction de décisions collectives dans la négociation pied à pied. Donc, l'alternative à l'émeute, c'est le discours politique sur la situation, et c'est éventuellement, effectivement, l'investissement d'espace, pour l'instant, d'espace de négociation, d'espace de tension, d'espace donc de compromis, aussi, tendu, que on appelle éventuellement la gouvernance. Voilà.
Ben oui.